Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais reprendre un sujet déjà abordé précédemment, qui est lié à l'actualité de la réforme des retraites. Donc, il ne s'agit pas de commenter cette réforme, bien sûr, ce n'est pas du tout le sujet ici, mais de voir le problème beaucoup plus général de la société et de son travail, et nous le verrons au cours de cette émission, évidemment, ce qui est lié au monde de la construction, du bâtiment, de l'architecture. Alors, je vous avais parlé de Un monde sans travail, qui est un ouvrage par un universitaire anglais qui s'appelle Daniel Susskind, et cet essai a été publié chez Flammarion et on a comme sous-titre « Comment les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle reconfigurent le marché du travail ». Alors la thèse de l'auteur, c'est effectivement que nous allons vivre une révolution, d'ailleurs qui est annoncée depuis longtemps, mais lui, il a une manière tout à fait radicale, il pense que les machines vont remplacer les humains, donc nous entrons dans la société des loisirs, qui peut faire rêver certains, et puis d'autres les inquiéter, parce qu'on aurait une société justement d'oisifs, d'inactifs, et qui perdrait son sens, et on aurait à la place les machines avec aussi le fantasme de la machine qui domine l'humain. Alors, je pense que nous ne sommes pas prêts d'arriver à cela, et on va prendre l'exemple de justement du bâtiment. Le bâtiment, c'est pas rien. C'est en France, on peut dire, le premier employeur, et même si ce secteur-là a subi des profondes, on peut dire des modifications, on peut dire, pas de révolution vraiment, mais des évolutions dans les manières de le pratiquer, il ne faut pas exagérer cela, et on reste, alors notamment dans le domaine qui est évidemment celui de cette émission, celui de l'architecture, les machines, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'ont pas changé grand-chose, et je vais essayer de développer cela. Alors, ça nous renvoie d'ailleurs à la précédente émission où je vous parlais de Charlotte Perriand, non pas que je fasse une fixation sur cette personne et sur le rôle fictif que on veut lui attribuer aujourd'hui, mais c'est surtout ce que j'ai vu récemment dans la plupart des magazines et des journaux par rapport à la station de ski, la station d'hiver des alpines des Arcs, où on attribue la construction de cette ville, on peut dire, de 36 000 lits, à la seule charrière de Perriand. On parle vaguement dans certains. D'abord, dans certains, on dit que charrière de Perriand a tout conçu de l'urbanisme, de l'architecture et l'immobilier. Puis on dit qu'elle a été aidée par un certain atelier de la montagne. Alors, ce qui m'importe, c'est de voir quelle est la réalité d'une part de cela. Alors, la réalité de cela, bien sûr, il s'agit de chantiers très importants qui ont demandé des équipes successives allant des géologues jusqu'effectivement au détail d'aménagement intérieur, et ça évidemment sur les longues périodes de son élaboration à la fois intellectuelle et aussi de sa construction qui s'est réalisée en phase. Il y a eu des équipes très importantes, des équipes évidemment d'architectes, avec toujours dans ces métiers un système assez pyramidal d'organisation, et évidemment un grand nombre aussi de praticiens, d'aides, de gens qui ont eu toute une série de tâches complémentaires à accomplir dans cette complexité. Donc, la question est-ce qu'il y a des bouleversements dus à la machine et notamment à l'arrivée de l'informatique? Alors, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les architectes dessinent de moins en moins à la main et que le progrès fait que on travaille avec des ordinateurs. Alors normalement, les ordinateurs font gagner du temps. Il faut gagner du temps dans de nombreux, ne serait-ce que par exemple dans de nombreux secteurs et ne serait-ce que par le traitement de textes avec Word, bon, puisqu'il faut le citer, fait gagner du temps par rapport à une écriture où on raturerait, on recopierait, et aussi avec les machines à écrire qui étaient déjà un progrès, mais qui, en cas de rature, on demandait évidemment des efforts. Il fallait, avant d'avoir une copie impeccable et propre, plusieurs essais et plusieurs tentatives. Donc, ce progrès que l'on imagine être universel dans toutes les fonctions informatiques, dans le cas de l'architecture, il y a une modification sur les apparences, sur la production graphique, mais en réalité, on ne gagne pas du temps d'une manière très importante. Alors, je ne veux pas paraître d'un réactionnaire. Mais l'essentiel du travail, c'est un travail de conception, et la conception, la conception assistée par ordinateur, on en est loin, et on en est non seulement loin, mais je pense qu'il n'y en a aucune. Alors, effectivement, l'informatique permet d'avoir des bases de données, d'avoir effectivement des ajouts avec des éléments qui sont déjà en copier-coller. Mais il faut dire que ça donne surtout une qualité de production et d'impression qui est remarquable, mais que, par exemple, une photocopieuse permet de faire des copier-coller d'une manière évidemment qui est moins propre ou moins impressionnante sur le plan de la qualité graphique, mais tout aussi rapide. Je dirais même bien souvent plus rapide, parce que malgré tout, les logiciels de dessin sont des machines lourdes à manipuler. Alors, de rapidité, évidemment, il n'y en a pas, et je pense même qu'il y a des inconvénients qui n'existaient pas dans les plans à la même échelle, avec les calques qui pouvaient être superposés, avec des choses qui sont aujourd'hui dans une version informatique, mais une version informatique qui est assez, on peut dire, pas très intuitive, et on n'a pas la réalité des dimensions. Enfin, il y a, je pense, autant de côté négatif que de côté positif. Mais au final, la question qui est posée sur la question du travail, ben, il y a toujours le même nombre de personnes, parce que pour dessiner, que ce soit au crayon, que ce soit à l'encre ou que ce soit à l'informatique, ben, il faut le temps de penser les choses, de les adapter, et la plupart du temps, il faut un nombre de personnes pour traiter les détails et l'aménagement. Ben, alors évidemment, si on fait du copier-coller et on reproduit les mêmes projets, mais là, comme je vous disais, on pourrait faire ça aussi avec une photocopieuse, et l'informatique ne change rien à la chose. Donc, dans un domaine aussi important que celui-là, on n'a pas de rétraction sur le nombre d'employés pour faire un projet. On est à peu près sur les mêmes constantes, quelles que soient les stratégies, les moyens graphiques que l'on emploie. On est toujours sur les allers-retours, on est toujours sur des essais, des maquettes. Enfin, il n'y a pas de grande évolution, il n'y a pas de rapidité, à mon sens, nouvelle. Et il n'y a pas aussi de réduction du nombre de personnes. Alors évidemment, il y a des choses comme, évidemment, tout un travail de secrétariat, encore une fois, bon, c'est lié au logiciel d'écriture de type Word, où on n'a pas besoin de passer par des tiers, on peut faire ça soi-même. Mais vraiment, tout cela reste à la marge. Donc, dans ce secteur-là, mais on pourrait l'étendre très certainement aussi à la recherche, par exemple, les bureaux d'études industrielles, que ce soit pour l'aviation de toulousaine ou la robotique ou les machines-outils, les robots, il faut bien les concevoir. Et donc là, on se trouve aussi avec du personnel qui doit faire les dessins, qui doit faire les éléments de maquette et la succession d'essais avec des prototypes. Et je vois par exemple un grand inventeur qui est Dyson. Il disait que pour son aspirateur, le premier, le fameux aspirateur qui est très connu Dyson, je crois qu'il avait fait jusqu'à 500 prototypes. Donc là, les prototypes, ça demande une main-d'œuvre importante. Et en fait, on voit que les choses ne se réduisent pas. Et même dans ce cas-là, de l'amélioration des outils technologiques, on peut dire qu'il y a au contraire une inflation et pas une réduction. Donc on est loin de la machine qui remplace l'homme, puisqu'on se rend compte que la machine, elle est en parallèle, elle va changer certains processus, mais qu'au final, il n'y a pas une économie dans ces éléments de recherche. Alors je pense que en science, d'une manière générale et en recherche, il s'agit de la même chose et que mon raisonnement peut être étendu à de nombreux domaines. Alors c'est vrai que par exemple, les dessins animés, quand on voit des reportages sur la manière dont Walt Disney travaillait dans les premiers dessins animés, les longs métrages, je crois qu'il y avait jusqu'à 500 à 1000 personnes pour réaliser les dessins, les fameux La Belle au Bois Dormant, Bambi, etc. Et aujourd'hui, effectivement, l'informatique est un outil prodigieux qui permet de réduire tout ce système de planches qui étaient dessinées les unes après les autres avec chacune photographiée. C'est un système extrêmement long et coûteux et aussi qui demandait un très grand nombre de personnes pour les dessiner. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'informatique remplit ce rôle avec très peu de personnes. Mais on est évidemment sur des activités assez marginales et pour revenir au cœur de notre débat, de notre émission, le bâtiment, je pense qu'il n'y a pas de grande réduction. Alors la question, c'est est-ce que on réduit le personnel? Alors si dans la conception, on n'a pas de grandes révolutions, est-ce qu'il y a des révolutions sur la manière de travailler? Alors là, c'est un sujet qui est important. On va marquer une pause musicale et puis on va reprendre ce sujet sur la main-d'œuvre et aussi sur l'industrialisation, sur la préfabrication. Est-ce qu'on va assister à des révolutions? Nous en avions déjà parlé avec les fameuses imprimantes 3D qui devaient ou qui doivent révolutionner le bâtiment, mais je vous ai dit déjà que je trouvais ça une fantaisie et que ça n'avait aucune chance de se réaliser. Bien.
Adore le foot, crie, allez les rouges dans sa tête. Il dort nul, réveillons pas ma mère sans aucun doute. Rave d'un boy scout, capitaine à bord de Santa Maria. Je voudrais bien savoir la loi des sentiments. Les cœurs en feu brûlent en hiver. C'est à n'y rien comprendre, l'amour est fascinant. Fait tourner le monde à l'envers. bien savoir la loi des sentiments. Le cœur en feu brûle, t'en y va. C'est à n'y rien comprendre, l'amour est fascinant. Fais tourner le monde à l'envers.
L'architecture de notre temps ne suscite pas l'enthousiasme des foules et qu'il y a la plupart du temps des critiques sur l'architecture contemporaine, sur nos villes, sur nos bâtiments, comparés au patrimoine, aux choses plus anciennes. Donc il est important de regarder quelles sont les critiques qui sont faites, et ces critiques sont de deux ordres contradictoires. La première, c'est on dénonce la monotonie. La monotonie de l'architecture répétitive et que l'on opposerait à l'architecture ancienne. Et de notre côté, on regrette aussi que les bâtiments soient hétéroclites et que l'on n'a plus de cohérence, de style, et que les villes se ressemblent dans une espèce de gesticulation de couleurs, de formes et de volumes sans la cohérence des villes de passé. Alors, il est bien certain que ces deux reproches sont contradictoires. Alors, on va prendre le premier sur la monotonie. Alors, il faut dire quelque chose qui est quand même assez important dans le changement de nos sociétés, c'est que si on compare les immeubles de logement tant admirés, qui font l'objet de, on peut dire, d'attractions, de spéculations, tels que les immeubles des villes anciennes, et notamment les immeubles haussmanniens qui ont reconstruit Paris d'une manière homogène et qui sont effectivement, si ce n'est des bijoux de proportion, parce que souvent ce n'est pas cela, mais en tout cas ils ont entre les rez-de-chaussée, les étages nobles, les parties supérieures et les toitures, on a eu des articulations et on a une variété qui n'est pas celle d'un immeuble aujourd'hui, de que ce soit de 5 étages ou de 10 étages, où on a des éléments répétitifs. Alors, évidemment, les causes sont diverses, mais la première cause, elle est surtout sociale. Et on peut de la même manière regretter les paquebots d'antan, ces navires, les derniers Paquebo France, où les bateaux avaient une ligne élégante, et comparés à ces énormes navires qui sont les navires de croisière, mais il faut dire que cette élégance-là, de la même manière que les immeubles haussmanniens, était avait comme inconvénient d'être une fragmentation sociale où on avait les classes supérieures qui avaient l'étage noble, par exemple, dans le cas des bâtiments, et puis les rez-de-chaussée où les cours intérieurs étaient pour les domestiques, les animaux, dans le cas des hôtels particuliers plus anciens, dans le cas des apprentis, enfin, et aussi des combles, on avait le personnel aussi domestique ou les gens plus pauvres qui y vivaient. Alors ils y vivaient en rez-de-chaussée dans des cours intérieurs sans lumière, et dans les étages, ben, il y avait la chaleur, les escaliers à monter qui faisaient qu'il y avait une ségrégation sociale. Alors les gens disent que c'était magnifique parce que les classes sociales étaient mélangées. Oui, enfin, il valait mieux être du côté des riches que du côté des pauvres dans ces logements. Et aujourd'hui, je pense que les conditions de logement sont beaucoup plus équitables et égales. D'ailleurs, les riches habitent dans des appartements qui ne sont pas très différents de ceux des pauvres, ce qui n'était pas le cas avant. Mais dans le cas, effectivement, des navires de croisière, eh bien, on a effectivement une égalité sociale beaucoup plus grande, on peut dire même totale, puisque les cabines ont toute la vue, ce qui n'était pas le cas dans le cas des classes, première classe, deuxième classe et troisième classe, où seules les premières classes avaient la vue sur l'extérieur, la deuxième classe en partie et les troisièmes classes pas du tout. Donc on est dans un système démocratique beaucoup plus égalitaire, et ce faisant, et on a des formes qui n'ont moins de caractéristiques, moins de variétés. Ça, on ne peut pas avoir les avantages et les inconvénients. Alors, la deuxième critique qui est faite, non pas sur la monotonie, mais sur les formes hétéroclites, ben, là aussi, ça, c'est par contre quelque chose qui est, on peut dire, relativement nouveau. Alors, c'est dû à plusieurs facteurs. La possibilité d'avoir des matériaux différents. On peut avoir des bâtiments tout en verre, on peut avoir des bâtiments en béton, on peut avoir des bâtiments en briques. C'est-à-dire, il y a un choix important, tandis qu'avant, ne serait-ce que par le transport, que le choix de la brique n'était pas un choix esthétique à Toulouse. Il était motivé pour des raisons pratiques, pour des raisons techniques, parce que il y avait de l'argile, et de ce fait, à proximité, et de ce fait, c'était un matériau qui était accessible et qui a fait que on peut parler de la ville rose. Donc, ce n'était pas des règlements. Bon, quoique les règlements étaient, après le grand incendie du Moyen-Âge, on était passé des torchis en bois, qui était la manière, on peut dire, universelle, ou du moins un Occident, de construire, et qui n'était pas réservé à l'Alsace comme on le croit, mais qui était la manière générale où les maisons, elles étaient en terre et en bois, et de ce fait, facilement inflammables. Bon, je ne fais pas d'ironie sur ce retour actuel à ces matériaux, c'est un autre sujet que l'on traitera par ailleurs, mais je reviens à ces questions de style. Donc il y a déjà ces variations. En plus, il y a quelque chose qui est demandé aux architectes, c'est-à-dire d'être toujours les plus, alors je ne sais pas si on peut dire inventif, mais en tout cas de se distinguer les uns des autres. Alors c'est le principe du concours, où il y a une sorte d'excitation à la nouveauté, à la forme qui sont les plus, on peut dire, souvent pas forcément liées au sujet, mais souvent extravagantes. Et de ce fait, il est bien difficile de distinguer la fonction d'un bâtiment, le sens d'un bâtiment, son utilité par son architecture, ce qui n'était pas le cas avant, où on avait des archétypes bien lisibles, ne serait-ce que dans l'architecture du XXe siècle, on avait des formes qui étaient, on peut dire, répertoriées pour des fonctions. Donc, les les écoles, les abattoirs, les mairies étaient identifiables comme le sont ou comme l'étaient les églises et les temples. Chacun avait une forme archétypale et le matériau était un apport, mais relativement secondaire. On pouvait construire en briques, en pierre, d'une manière différente, mais on était dans des formes que l'on reconnaissait. Alors évidemment, tout cela s'est perdu et on a aujourd'hui aussi cette vision hétéroclite de nos villes où on ne sait pas distinguer un commissariat de police d'une halte-garderie, par exemple. Donc c'est si on n'a pas un outil lié à son smartphone qui permet de trouver les bâtiments, ce n'est pas la forme architecturale qui indique généralement la fonction des bâtiments, quoique les immeubles de bureaux se différencient des immeubles d'habitation. Mais enfin, ce n'est pas une règle absolue et ce manque de lisibilité est, je pense, un problème. Et là aussi, il faut se poser la question, qui est une question aussi de civilisation. Pourquoi on ne demande pas aux architectes d'avoir un style propre, on ne leur demande pas d'avoir une modestie par rapport à certains bâtiments, qui sont des bâtiments d'habitation, qui n'ont pas besoin de faire des grandes prouesses formelles, et également pour des bâtiments différents, on n'a pas besoin aussi d'avoir des couleurs, des formes, mais l'ambiguïté de la demande, c'est qu'on demande justement et la sélection se fait par cette forme un peu ridicule de l'innovation qui est souvent que des répétitions formelles et on croit que tout le monde doit être créateur, innovant, attendu que de la modestie et du respect que de l'usage et du sens seraient bienvenus. Voilà donc, on peut dire que la troisième donnée donc qui serait donc l'unité de style et que les architectes ont le moins possible dans leur production, on voit surtout des choses complètement disparates et ils ne font que répondre à la demande. La fonction des bâtiments qui est de moins en moins demandé dans son rapport à la forme. Aujourd'hui, il semblerait que la seule vertu que l'on donne à un bâtiment, non plus c'est d'être fonctionnel, c'est-à-dire qu'un hôpital fonctionne bien comme un hôpital, une école comme une école, mais on leur demande d'être des démonstrations énergétiques, et ça n'apparaît que comme l'alpha et l'oméga de l'architecture et de la recherche architecturale. Donc tout ça est aussi infantile et nocif. Alors la troisième des choses, c'est le contexte. Alors effectivement, on pourrait penser que le contexte, alors je vous parlais de briques, je vous parlais de pierre, déjà le matériau pourrait donner une unité. Et ça, effectivement, si c'est une exigence qui est générale, on pourrait penser que cette exigence puisse être faite par les architectes. Les architectes ne font que se plier à la demande et à ce qu'on attend d'eux, surtout avec le système de sélection aujourd'hui par la compétition et la surenchère. Alors, cette modestie qui serait justement celle du contexte, elle peut être pervertie par exemple par l'architecte Star Nouvelle qui dit qu'il est contextualiste, mais on ne voit pas très bien ce que ça veut dire dans la mesure où il crée des bâtiments, évidemment sans continuité d'une œuvre à une autre et chaque fois avec des éléments de prouesses formelles totalement différents, mais apparemment c'est ce qui plaît et ce qui assure son succès. Il aurait bien tort de ne pas continuer. Mais ça va effectivement à l'envers de cette demande générale. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation tout à fait paradoxale parce que cette demande de cohérence, de cohérence et aussi de contexte, que les villes soient beaucoup plus en continuité avec le passé est contradictoire avec cette propension à créer des formes originales. C'est, on peut dire même tout à fait le contraire. Alors la question, c'est que il faudrait qu'il y ait débat sur ces questions et on ne peut pas se parler de la France moche uniquement. Alors nous sommes bien sûr partis de la question du travail et comme je vous disais, il n'y a rien de vraiment changé et le travail est lié au type de réalisation. Il est certain que si on a des réalisations qui sont, on peut dire, économiques, sans parler de bon marché, avec des matériaux répétitifs on a effectivement moins de détails de qualité, on a moins d'artisanat raffiné. Et ça aussi, ça a un impact sur la production, sur le mode de production et sur sur le nombre de personnes qui vont être employées sur les chantiers. Alors, il n'y a pas de fatalité en cela. Je crois que l'époque moderne n'est pas différente des autres époques. On peut trouver des vocabulaires pour des matériaux, pour des raffinements sur des balcons, des garde-corps. Ça peut être sans retomber dans les pastiches anciens de plafonds décorés en staff et en plâtre. On peut trouver aussi des fresques, on peut trouver des sculptures, on peut trouver des éléments de jardin, des éléments de matériaux tout à fait mis en œuvre d'une manière raffinée et précise, et tout en étant dans un vocabulaire contemporain. Donc il n'y a pas de fatalité en la matière. La question, c'est un désir collectif, c'est la manière dont les choses seront demandées. Et aujourd'hui, quand on voit encore une fois que le seul élément peut être la manière dont les bâtiments sont enveloppés d'isolants, évidemment, on est loin du compte par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'insertion dans un site, le fait que l'architecture puisse être reconnue pour son utilité et sa fonction, et dernier point aussi, être le lieu où un artisanat de qualité et donc une main-d'œuvre, on peut dire, abondante, utile, qui trouverait dans l'architecture son moyen d'expression. Et là encore, et ça serait la conclusion de propos d'aujourd'hui, je pense que les machines et l'informatique ne changeront pas grand-chose, si ce n'est qu'elles permettront d'alléger la pénibilité du travail, et c'est une très bonne chose, mais ça s'arrêtera là. Je vous souhaite une bonne semaine.